tous, il est 5h, merci de vous réveiller avec nous sur Radio J. Vous pouvez nous écouter sur radioj.fr. Bienvenue à toutes et à tous dans le Grand Journal. Un grand journal que vous pouvez écouter sur notre site radioj.fr et sur notre application gratuite. Vous pouvez également nous suivre comme tous les jours en vidéo sur nos chaînes Facebook, YouTube et X. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire tous les après-midi. Un grand merci à vous. Tout de suite, le premier journal de l'après-midi avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Steve, bonjour à tous.
Après une journée de commémoration pour Yom HaZikaron, Israël fête désormais Yom HaAtzmaout, son jour d'indépendance, l'occasion pour le Premier ministre israélien d'appeler à vaincre le Hamas.
Un appel lancé dans un message vidéo préenregistré, diffusé lors de la cérémonie officielle hier soir qui a marqué le 76e anniversaire de l'indépendance du pays. Un appel dans lequel il a relié la guerre actuelle à Gaza et la guerre d'indépendance d'Israël. Écoutez.
Nous l'avons vu le 7 octobre cette année, le jour de l'indépendance n'est pas comme les autres jours de l'indépendance. La guerre fait toujours rage. Elle nous a été imposée suite au sombre jour de cet horrible massacre. Beaucoup de nos frères et sœurs sont toujours détenus dans les cachots du Hamas. Leurs familles souffrent énormément. Nous les ramènerons tous à la maison, morts ou vifs.
Les otages également au cœur du discours du président israélien Yitzhak Herzog ce matin lors de festivités aux côtés de soldats de Tsahal à Jérusalem.
Nous trouvons dans des jours emplis de douleurs, du deuil, de douleurs des blessés, de douleurs des citoyens qui ont dû quitter leur domicile, de douleurs des otages. Je le répète, il n'y a pas de plus grand commandement que le rachat des captifs. Et comme je l'ai dit, nous ne nous reposerons pas tant qu'ils ne seront pas revenus.
Le président américain, lui, s'est adressé à Yitzhak Herzog dans une lettre à l'occasion de Yom HaAtzmaout. Joe Biden note que les États-Unis sont fiers de leur relation durable avec Israël dans un contexte de relations pourtant tendues ces dernières semaines suite à la menace de suspension de livraison d'armes en cas d'offensive à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Joe Biden qui a dit au chef d'État israélien espérer que l'année à venir en Israël apporte plus de paix et de joie que de souffrance en référence au massacre du 7 octobre et à la guerre qui se poursuit.
Lors de cette cérémonie aux côtés des soldats de Tsahal à Jérusalem, le chef de l'armée a lui invité les plus religieux à se joindre au combat.
S'adressant aux 120 soldats honorés lors des célébrations du jour de l'indépendance organisées à la résidence du président, Herzi Halevi a assuré que le service militaire et la vie religieuse n'étaient pas incompatibles. Le chef d'état-major de Tsahal.
Il y a parmi vous des citadins et des villageois, des natifs du pays et des émigrants de six continents. Des représentants de toutes les religions et confessions, y compris ceux qui ont grandi dans la société ultra-orthodoxe et servent dans l'armée israélienne. Comme il sera bon dans quelques années de siéger parmi les plus remarquables de sa génération et de prouver qu'il est possible de maintenir l'identité religieuse et le mode de vie religieux et en même temps d'exceller dans le service militaire pour le peuple et le pays.
Le chef d'état-major de Tsahal depuis la résidence du président à Jérusalem ce matin.
Sur le terrain, Tsahal a attaqué une centaine de cibles à travers toute la bande de Gaza ces dernières 24 heures.
La 401e brigade blindée et la brigade Givati ont éliminé plusieurs cellules terroristes lors de combats rapprochés à l'est de Rafah. Des armes ont également été localisées dans le nord du territoire. Par ailleurs, l'armée a étendu ses opérations à Jabalia où une nouvelle offensive a été lancée il y a deux jours. Dans le même temps, l'ONU a réévalué le nombre de morts à Gaza depuis le début de la guerre, Daniel Haïk.
Selon les nouvelles données fournies par l'ONU, le nombre de femmes et d'enfants palestiniens tués a été diminué quasiment de moitié. L'ONU affirme que le nombre d'enfants palestiniens n'est pas 14 500 tués, mais 7 800. Quant au nombre de femmes, il a été réduit de 4 500. Le porte-parole de l'ONU a enfin reconnu qu'il était incapable de vérifier précisément le nombre de victimes. Je vous rappelle qu'à Jérusalem, on répète depuis plusieurs mois que les bilans fournis par l'ONU se réfèrent aux données fausses du Hamas et ne reflète pas la réalité.
Notre correspondant en Israël, Daniel Haïk.
Sur le front nord maintenant, Tzal a mené des frappes contre des cibles du Hezbollah dans plusieurs zones du sud Liban.
Tzal a bombardé des bâtiments militaires du groupe terroriste à Yaroun ce matin. Hier soir, c'était les localités d'Al-Adaïssa, d'Al-Khiyam et de Kfar Kila qui étaient visées, et ce après la multiplication des frappes du Hezbollah contre le nord d'Israël, notamment contre les localités de Bir Hanit et de Zarit.
Plus de 1000 membres du Hamas sont actuellement hospitalisés en Turquie pour y être soignés. C'est félicité le président turc Recep Tayyip Erdogan.
L'occasion pour le chef d'État de réaffirmer sa position. Il ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste. Recep Tayyip Erdogan s'exprimait hier devant la presse aux côtés du premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Appeler le Hamas organisation terroriste serait cruel. Au contraire, le Hamas est une organisation de résistance, a-t-il martelé. Lui qui recevait le mois dernier le chef politique de l'organisation, Ismaël Haniyeh. La relocalisation du siège du Hamas du Qatar vers la Turquie est à l'étude.
Voilà pour la Turquie. De son côté, l'Égypte réévalue ses relations avec Israël, selon le Wall Street Journal.
Le pays envisage de diminuer ses relations diplomatiques avec son voisin, avec entre autres le retour de son ambassadeur de Tel Aviv. La mesure envisagée au Caire intervient après que les Égyptiens ont annoncé qu'ils se joignaient au procès intenté par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice pour le génocide et qu'ils ne coopéreraient pas avec Israël pour l'ouverture du terminal de Rafah, repris par les forces israéliennes la semaine dernière.
Dans le reste de l'actualité internationale, l'Union européenne adopte un pacte migratoire controversé.
Les pays de l'Union donnent ce mardi leur ultime feu vert au pacte sur la migration et l'asile, une réforme majeure qui durcit le contrôle de l'immigration en Europe. À moins d'un mois des élections européennes pour lesquelles les sondages prédisent une poussée des partis de droite et d'extrême droite, partis anti-immigration, cet ensemble d'une dizaine de législations âprement négociées pendant des années doit formellement être adopté par le Conseil de l'institution.
L'actualité en France, avec une nouvelle affaire d'antisémitisme, le mur des justes du mémorial de la Shoah à Paris a été tagué de main rouge la nuit dernière.
Ce matin encore, jour anniversaire de la rafle du billet vert, préfiguration de la rafle du Veldiv, plusieurs dizaines de mains étaient visibles sur l'édifice et quelques autres murs du quartier du Marais, des inscriptions révoltantes auxquelles la maire de Paris, Anne Hidalgo, a immédiatement réagi en déclarant ce matin sur sa chaîne WhatsApp « Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables. Aucune cause ne saurait justifier de telles dégradations qui salissent la mémoire des victimes de la Shoah ». L'édile de la capitale a également indiqué dans son message avoir demandé dans la foulée à ce qu'un constat de la police soit réalisé avant d'effacer les graffitis. J'ai aussi saisi le procureur de la République de Paris au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, a ajouté Anne Hidalgo.
On termine avec la 77e édition du Festival de Cannes qui démarre ce mardi avec au programme plus de 100 films et près de 400 séances pour les festivaliers, le tout dans un contexte explosif.
Des rumeurs en lien avec MeToo et de possibles enquêtes journalistiques planent sur le Festival de cinéma. 100 personnalités ont appelé dans une tribune publiée dans Le Monde ce matin à la création d'une loi intégrale contre les violences sexuelles. Le texte signé par les actrices Isabelle Adjani, Juliette Binoche ou encore Judith Godrèche est assorti d'une pétition initiée par la Fondation des Femmes, MeToo Media et l'actrice Anna Mouglalis. Cannes, c'est aussi la menace d'une grève que font peser sur l'événement les salariés du collectif sous les écrans de la DECH, fragilisés par la réforme de l'assurance chômage. Enfin, alors que les deux précédentes éditions ont été marquées par des happenings en soutien à l'Ukraine, difficile de ne pas imaginer le conflit à Gaza s'inviter sur les marches d'ici la fin du festival prévu le 25 mai prochain.
Merci Etanit, on vous retrouvera d'ici une vingtaine de minutes pour le rappel des titres en direct. À suivre la politique.
Radio J. Steve Nadjar.
Et c'est Éric Ciotti qui était ce matin l'invité de Christophe Barbier dans le morning de Radio J. Le président des Républicains considère que la question de la dissolution de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon se pose. Extrait de cette interview Radio J qui fait depuis ce matin l'objet de nombreuses réactions.
Nous sommes aujourd'hui dans une forme de terreur qui est entretenue, de haine d'Israël et derrière de haine des Juifs, une résurgence d'un antisémitisme insupportable. On a vu, vous venez de le dire, dans un cadre humoristique, ce qui s'est passé dans la compétition de l'Eurovision avec Eden Golan, qui a été prise alors qu'elle est admirable, qu'elle a une voix magnifique, que c'est une jeune femme pleine d'espérance, c'est une artiste, elle a été attaquée, elle a été menacée. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous alors que nous avons malheureusement célébré la semaine dernière l'histoire tragique de la Shoah, qui est une plaie infâme sur l'humanité? Eh bien, on revient 75 ans plus tard avec les mêmes mots, avec les mêmes menaces. Donc, il faut une sanction implacable. Les actes antisémites ont augmenté de 1000% depuis le 7 octobre. Le Premier ministre a rappelé que sur les trois premiers mois de l'année, on était à près de 400% d'augmentation. Il faut donc agir, il ne faut rien laisser passer. Il y a des actes, des paroles antisémites dès l'école. Il faut les sanctionner, il faut être intransigeant et puis il faudra un jour aussi s'attaquer à ceux qui entretiennent ce climat. Et
les politiques notamment, et s'attaquer comment?
Et notamment, moi je dis que la question de la dissolution de la France insoumise est posée, parce que ce parti ne peut pas continuer à semer la haine, à propager la haine, à instrumentaliser ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et à développer des propos qui ont des conséquences extrêmement fortes. Donc si cette dérive continue, si on va dans cette escalade verbale qu'entretient M. Mélenchon avec des degrés de plus en plus élevés, oui, je le dis, il faudra aller vers la dissolution de la France insoumise.
C'est un acte extrêmement fort. Historiquement, il y a très peu d'exemples.
C'est un acte extrêmement fort, mais on ne peut pas transiger avec des partis qui ne sont pas clairs sur l'antisémitisme.
Il y a aussi l'extrême droite, cette manif néo-nazie à Paris, interdite par le préfet, rétablie par la justice.
Un député... Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi cette manifestation a été autorisée par la justice.
Liberté d'expression,
dit-il. Il y a des décisions qui m'échappent. Je le dis très clairement, le préfet de police avait bien fait d'interdire cette manifestation. Les faits lui ont donné raison et quelquefois la justice devrait s'inspirer aussi de principes de réalité et de bon sens.
Le président des Républicains, Éric Ciotti, ce matin sur Radio J, au micro de Christophe Barbier. Christophe Barbier, que vous retrouverez dès demain à 7h45 dans le morning d'Ilana Ferradio.
Radio J. La séance est ouverte.
Chassez de vos rangs les nazillons, les racistes, les antisémites.
Nous n'hésiterons pas à déposer une motion de censure.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies.
Honte à vous! Honte à vous, madame!
Je n'ai jamais dit qu'Israël avait un droit absolu.
Hémicycle. Hémicycle avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis.
Bonjour Steve.
Merci de nous rejoindre.
Merci à vous.
Comme tous les mardis après-midi dans le Grand Journal, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui sortira en kiosque demain. On peut avoir une idée de la une? C'est trop tôt encore.
Non, je peux vous le dire, on va plutôt s'interroger sur les interrogations, les grandes interrogations stratégiques, politiques, qui parcourent la société israélienne en cette fête de Yom HaTzmaout.
Ça sera donc demain en kiosque. Alexis, d'abord votre commentaire à ces déclarations sur Radio J ce matin d'Éric Ciotti. Une prise de parole qui a suscité beaucoup de réactions et de critiques à gauche. J'en cite au moins une, celle d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste sur le réseau social X. On peut aussi dissoudre la démocratie et instaurer le parti unique. Alexis Lacroix.
Si vous voulez, il faut écouter la séquence. Là, vous venez de la passer, on voit les images, on voit d'ailleurs la stupeur de notre ami, l'intervieweur Christophe Barbier. Pourquoi? Car évidemment, sur le fond, on ne peut être qu'en plein accord avec le constat que dresse Éric Ciotti du caractère fétide, néfaste, aujourd'hui polluant de tout point de vue, polluant de la qualité du débat de la France insoumise dans l'espace public. Plein de choses qui ont été dites, je les redis, mais depuis un mois, c'est absolument évident. Il y a une bordélisation perverse de l'espace public. On l'a vu notamment rue Saint-Guillaume avec cette espèce de happening antisémite déguisé en antisionisme des étudiants. Et on le voit très régulièrement dans les prises de position des hiérarques de LFI qui rivalisent d'ingéniosité perverse pour disculper d'une manière ou d'une autre les faits et gestes du Hamas. Donc tout ça est absolument vrai. Maintenant, je suis désolé de dire au médecin Ciotti qu'il n'a pas la bonne thérapie. Il a une thérapie qui est même, si vous voulez, à mon avis, anticonstitutionnelle. Pourquoi ? Jusqu'à maintenant, d'ailleurs Christophe Barbier le lui fait remarquer, il connaît l'histoire politique encore mieux que moi. Jusqu'à maintenant, ça n'a été fait qu'exceptionnellement dans l'histoire des républiques françaises. Et ce ne pourrait d'ailleurs avoir de sens que s'il y avait des passages à l'acte violents, si on était en face de ligues des années 30. Or, je suis désolé, la France insoumise que je suis loin de défendre doit être combattue, et d'abord et avant tout, sur le terrain des idées, de la confrontation du débat public.
Donc mais pratiquement, c'est inenvisageable.
C'est inenvisageable, il le sait d'ailleurs à mon avis très bien, car c'est un homme politique tout à fait, si vous voulez, avisé, qui a de l'expérience. En
et
revanche,
politiquement, c'est une erreur selon vous?
Non, pas du ailleurs. Tout. Il le fait dans le cadre de la compétition politique dont nous parlions récemment. Il fait son bel ami. Vous voyez, c'est-à-dire qu'après François-Xavier Bellamy, leur candidat, qui a eu une prise d'opposition très forte contre les blocages des universités et notamment contre la dérive antisémite d'une partie des étudiants de Sciences Po, il veut marquer le débat. Mais il sait très bien, un, que ça ne se fera pas et que quand bien même certains l'envisageraient, de toute façon, c'est une mesure qui serait en réalité, je suis désolé de le dire comme ça, parfaitement liberticide. Il sait très bien que LFI doit se combattre, mais vraiment pied à pied, de la manière la plus dure, la plus âpre, sur le terrain des idées, mais certainement pas en invoquant une interdiction. Et donc, effectivement, il le sait très bien. En revanche, effectivement, comme c'est un responsable public, il a l'art du buzz, et on est aujourd'hui, malheureusement, dans une communication politique un peu appauvrie, qui est réduite, si vous voulez, à ses coups d'éclat. Et donc, il savait très bien, évidemment, en venant chez Christophe Barbier ce matin sur Radio J, qu'avec cette proposition un peu énorme au sens de Hugo, hein, H-E-N-A-U-R-M-E, il allait faire la journée. Il le sait parfaitement. Mais je vous le dis, ça n'est pas sur ce terrain qu'il faut configurer la lutte contre la France insoumise. Il faut le faire comme nous le faisons nous, par exemple, hein, en essayant de déconstruire l'argumentaire grossier de ces hiérarches qui sont effectivement engagés dans une surenchère de plus en plus préoccupante contre l'État juif. Mais on ne peut pas, encore une fois, légiférer de cette manière-là, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait récemment? C'était Darmanin, je crois. On a dissous des groupuscules ultra-violents, d'extrême droite.
Ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale.
Ultra-violents. Mais voilà, ce ne sont pas des partis qui ont pignon sur rue. On en pense qu'on veut. Personne ne nous oblige à voter pour LFI ou à voter pour le Rassemblement National. On en pense qu'on veut, mais ils font partie de la vie publique française et il faut les combattre pied à pied sur le terrain des idées. C'est évidemment ce qu'aurait dû dire Éric Ciotti. Ça, pour moi, ça n'est pas grave, hein, ce qu'il a dit. C'est simplement inopérant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une idée vaine. Voilà, tout simplement.
Alexis, les positions semblent se cristalliser à 3 semaines désormais des européennes, d'après notamment l'étude quotidienne IFOP fiduciale pour le Figaro, LCI et Sud Radio. Raphaël Glucksmann remonte à 14% des intentions de vote, se rapprochant toujours de plus en plus de Valérie, la tête de liste de Renaissance et Renew.
Je trouve que ce rolling du Figaro est intéressant, parce qu'effectivement, il corrobore ce dont nous avions l'intuition. Vous savez, on a quand même souvent de bonnes intuitions dans nos conversations.
Surtout,
votre influence. On assiste peu à peu, Steve, à une petite cristallisation des intentions de vote. C'est-à-dire, il y a encore des gens qui hésitent, naturellement. Mais quand même, sondage après sondage, et ce rolling du Figaro réalisé hier est parlant, on assiste à une petite cristallisation. C'est-à-dire, pour le dire autrement et de manière plus simple, les estimations bougent de moins en moins. Donc vous avez un Raphaël Glucksmann qui est remonté à l'étiage de 14 et qui ne semble plus en bouger. Vous avez une Valérie Ayé qui doit prier tous les saints du calendrier tous les matins pour que ça bouge plus, mais qui est en gros à 17. Donc dans cette perspective, elle sauverait les meubles, rappelez-vous,
même si c'est un très mauvais résultat,
bien sûr, mais la hantise du président là depuis
c'est
quelques
dépassé par la tête
c'est
de l'espèce.
Dépassé par Place Publique, Parti Socialiste. Bon, pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Je dis semble car ce sont des photographies à l'instant T, mais elles corroborent quand même ces tendances. Et puis nous avons un Rassemblement National qui est loin devant les droites, hein, au sens large. On va commenter d'ailleurs le détail des résultats. 32,5. Donc, il conforte progressivement ses positions. Donc, tout ça semble indiquer une cristallisation grandissante des votes avec
est-ce
donc...
Est-ce que le débat, Alexis, pardon,
je vous en prie.
Terminer votre phrase.
Je vous en prie. Non, une cristallisation grandissante des votes, aussi bien pour les formations qui seraient classées devant, hein. Donc, là, on va vers ça d'ailleurs, hein. Un RN premier, un pôle Renaissance majorité gouvernementale deuxième et très probablement Place Publique en troisième. Et puis, pour les formations qui auront moins de suffrages, mais qui seront quand même présentes au Parlement européen d'après ce qu'indiquent les tendances des sondages actuels. On peut en dire un mot.
Cristallisation, dites-vous, Alexis, qu'est-ce qui pourrait faire évoluer encore ces dynamiques? Est-ce que, par exemple, le débat télévisé très attendu la semaine prochaine entre Gabriel Attal et Jordan Bardella pourrait favoriser la tête de liste
Renaissance? Je pense qu'on se dit, glissons-nous, jouons les macronologues. Le cerveau du président est un cerveau en ébullition permanente, hein. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, mais là, il est en ébullition sur ces questions. Qu'est-ce qu'ils se disent? À tort ou à raison, mais c'est leur analyse. Ces débats, s'ils ne sont pas ratés, vont nous permettre de grappiller un point, deux points, et de, alors, évidemment pas d'inverser la tendance avec le RN, ouais, mais de conforter notre légère avance face à notre concurrent socialiste, car aujourd'hui il y a un concurrent socialiste.
Opposant, ayant opposé Valéry Ayer à Jordan Bardella n'avait pas été une franche réussite.
Totalement ratée, si vous, du point de vue de cette efficacité politique, je veux dire, hein, totalement ratée. Je ne dis pas qu'elle a été nulle, mais elle n'a absolument pas su mener, en quelque sorte, à son avantage la discussion. Et puis elle a tapé trop fort. Il ne faut pas sortir l'arme nucléaire pour rien. Si vous, dans un débat, faut proportionner.
Alexis, alors, pour conclure, il nous reste 30 secondes.
Vraiment. Bon, alors donc 30 secondes. Marine Le Pen semble décider à accepter le débat, mais à ses conditions. Or, c'est fin, enfin, j'allais dire, c'est subtil de leur part. Ils ne veulent pas être enfermés dans une polémique sur l'Europe, sur les feux tricolores, vous savez.
La signalisation.
Parce que là, elle sait, je vais très vite, que Emmanuel Macron va la taper là-dessus en disant « on comprend rien, Madame Le Pen, vous êtes très sympathique, mais vraiment, votre idée de l'Europe est incompréhensible ». Et donc, elle veut, en revanche, faire porter le débat sur le bilan d'Emmanuel Macron. C'est évidemment sur son, entre guillemets, passif qu'elle peut espérer l'attaquer et donc marquer de nouveau des points.
Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive.
Merci à vous.
Et qu'on peut vous réécouter sur radioj.fr et vous regarder, vous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi.
À vendredi.
À vendredi.
Radio J. Steve Nadjar. Radio J.
Radio J.
C'est l'heure de marquer une première pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du Grand Journal. Nous serons en compagnie de Pascal Zunshine depuis Jérusalem sur les festivités de ce Yom HaTzmaout très particulier. Bien sûr, juste après le président du CRIF, Jonathan Arfi. Restez avec nous, vous êtes bien sur Radio J. A tout de suite.
Radio J. Réfoua, Serge et Nicolas Raffal. Radio J.
Bonjour, c'est Serge.
Bonjour, c'est Nicolas.
On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J.
Au programme médecine, chirurgie,
bien-être
et santé. Rendez-vous dans Réfoua avec les Rafales père et fils
sur Radio J.
Radio J. Radio J. Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence Juive vous invite au Salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand Salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Radio J. Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Radio J.
La deuxième partie du Grand Journal, merci d'être avec nous en ce Yom HaTzmaout 5784. Vous pouvez nous suivre sur le DAB et nous suivre également en vidéo sur YouTube. Direction maintenant, Jérusalem.
Radio J.
Osei shalom bimrovmav.
Nous, ikablou. Nous, ikablou. Nous, ikablou.
חברים, החדשות טובות. התחלנו לבלום את הדלטה.
ילדינו מסתכלים עליה. מה אנחנו רוצים שהם יראו?
פסקל זונשיין.
Bonjour Pascal.
Bonjour Steve.
Et merci de nous rejoindre en direct comme tous les après-midi. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, Israël célèbre depuis hier soir son indépendance. Des festivités plus sobres cette année, marquées par l'ombre du 7 octobre, mais aussi par l'inquiétude concernant le sort des otages toujours retenus à Gaza.
Oui, festivités officielles à minima. Le président de l'État a maintenu la réception en l'honneur des 120 appelés de Tzahal, distingués chaque année pour leur excellence. Yitzhak Herzog a expliqué qu'il avait tenu à maintenir la cérémonie malgré le contexte très difficile de cette année de guerre, parce que c'était justement le moment de saluer et de remercier les soldats de Tzahal. Cette année, en revanche, si le ministre de la Défense et le chef d'état-major de Tzahal étaient venus à la résidence du président, le chef du gouvernement, lui, n'a pas assisté à la réception. Benjamin Netanyahou ne fera d'ailleurs aucune apparition publique pour les célébrations de l'indépendance, de même qu'il n'a pas assisté non plus ce matin au traditionnel concours biblique dont le thème était consacré à l'héroïsme et remporté par deux lycéens israéliens de classe de première. Cet après-midi, le président Herzog recevra les membres du corps diplomatique, là aussi un événement traditionnel. Le président Biden a d'ailleurs adressé un message de félicitations à son homologue israélien pour le 76e anniversaire de l'indépendance, affirmant que les États-Unis étaient fiers de leur relation persistante avec Israël. Le président Biden a ajouté qu'il était et restait un ardent supporter d'Israël et que l'engagement des États-Unis à la sécurité d'Israël était inébranlable. Quant aux Israéliens, ils n'ont pas dérogé à la tradition des pique-niques et des barbecues sur les plages et dans les parcs, même si cette année, évidemment, certains sites trop proches des zones de combat sont restés fermés et qu'il n'y a pas non plus eu la traditionnelle parade aérienne.
Pascal, sur le plan militaire, justement, des roquettes ont visé ces dernières heures la ville de Sderot au sud, mais aussi la Galilée au nord.
Oui, des alertes qui ont continué aussi en début d'après-midi à Sderot et sur l'ouest du Negev. 3 roquettes ont été interceptées. Il n'y a pas eu de blessés, pas de blessés non plus ce matin lors de tirs du Hamas vers Ashkelon. Et depuis ce matin, plusieurs attaques du Hezbollah sur le front nord, principalement l'ouest et le centre de la Haute-Galilée. Plusieurs tirs de missiles anti-chars qui n'ont pas fait de blessés. Tzahal a visé des positions du Hezbollah au sud-Liban. Un responsable local de la milice chiite pro-iranienne a été éliminé.
Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous comme tous les après-midi en direct dans ce grand journal. On peut vous réécouter sur notre site radioj.fr. Bon après-midi de Yom HaSmaout et à demain.
À demain.
Radio J, le grand journal, Steve Nadjar.
Nous retrouvons à présent dans le grand journal le président du CRIF, Jonathan Arfi. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre. En ce Yom HaSmaout 5784-2024, quel vœu adressez-vous, formez-vous pour l'État d'Israël?
Pour l'État d'Israël et au-delà pour les Israéliens, je forme le vœu au nom des institutions juives de France, des vœux de sérénité, des vœux de consolation, des vœux de sérénité parce que Israël a droit, comme toutes les nations du monde, à vivre en paix, à ne pas être attaqué sans cesse par des voisins qui contestent son droit à l'existence, et des vœux de consolation, bien sûr, pour les familles qui ont perdu des êtres chers durant cette année et qui, le 7 octobre, ont vu leur monde s'effondrer. Des vœux, bien sûr, aussi pour la libération des otages.
Est-ce que vous estimez, Jonathan Arfi, que l'impact à long terme du 7 octobre sera aussi fort sur Israël que celui de la guerre de Kippour d'octobre 73?
Incontestablement, le 7 octobre est un tournant historique, en tout cas marquera nécessairement l'esprit de toute une génération. D'abord, il faut se souvenir que pour une partie des Israéliens, notamment les plus jeunes, c'est la première guerre de cette intensité depuis effectivement au moins la guerre du Liban ou la guerre de Kippour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que au fond, il y a l'idée que Israël ne sera jamais un État ordinaire. En tout cas, c'est le message que ses voisins veulent lui envoyer, qu'il n'aura jamais droit au statut et à la banalité d'être un État comme les autres qui serait accepté par ses voisins naturellement. Et les Israéliens vivent avec ça. Et au fond, le 7 octobre a marqué définitivement le deuil d'une paix, entre guillemets, totale qui viendra peut-être, mais pour des générations plus lointaines.
Alors cette guerre contre le terrorisme islamiste palestinien s'est accompagnée, on le sait, en diaspora, notamment en France, par une flambée d'actes antisémites. Dernier exemple en date, la vandalisation du mur des Justes, du mémorial de la Shoah la nuit dernière, un mur des Justes qui porte les noms de près de 4000 personnes qui ont aidé au sauvetage des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Un mur recouvert de mains rouges, symbole, on le sait, renvoyant notamment au lynchage de deux réservistes israéliens en 2000 à Ramallah. Abject, Jonathan Arfi.
Oui, c'est un double outrage. Outrage d'abord à la mémoire de la Shoah, parce que venir souiller, salir le mur des Justes, c'est évidemment porter atteinte à la mémoire des 76 000 Juifs de France disparus et des 4 000 Françaises et Français qui ont œuvré pour sauver les Juifs qui ont pu l'être durant la Shoah en France. Puis la deuxième chose, c'est que c'est un outrage parce que ce symbole des mains rouges n'est pas un symbole innocent, nous le savons tous, c'est renvoyer un appel violent au meurtre, un appel au meurtre de juifs, puisque ce symbole, c'est celui des mains ensanglantées des terroristes qui avaient lynché deux Israéliens en octobre 2000 à Ramallah, on s'en souvient.
Merci beaucoup, Yonatan Larfi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil représentatif des institutions juives de France. On peut réécouter votre intervention sur notre site radioj.fr. Bon après-midi à vous.
Merci.
Et à la semaine prochaine. Radio J, 5h30, bonjour et bon réveil. Merci d'être avec nous dans le Grand Journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. À suivre, le rappel des titres. Un nouveau point sur l'info signé Tanit Belaïch. Bonjour Tanit.
Bonjour à tous. Trois roquettes tirées contre Sderot dans le sud d'Israël ont été interceptées il y a une vingtaine de minutes. Pour l'heure, aucun blessé ni dégâts matériels n'a été signalé. Les roquettes ont été interceptées lors d'une marche dans la ville pour le renouveau des localités en bordure de Gaza et pour la fête d'indépendance d'Israël. Alors que Tsahal met en place son offensive à Rafah, notamment à l'est de la ville, où elle a éliminé plusieurs cellules terroristes hier, 450 000 civils ont fui la localité du sud de la bande de Gaza depuis la semaine dernière, soit depuis que l'armée israélienne a émis les premiers ordres d'évacuation. La police israélienne a ouvert une enquête après que des activistes ont bloqué et vandalisé au moins 7 camions d'aide humanitaire destinés à la bande de Gaza ce matin. Plusieurs personnes du collectif Tzav 9 ont été arrêtées, précisent les forces de l'ordre. Enfin, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Arti Halevi, a invité les plus religieux à se joindre au combat lors des célébrations de Yom HaAtzmaout organisées depuis la résidence du président à Jérusalem ce matin. Le service militaire et la vie religieuse ne sont pas incompatibles, a-t-il déclaré.
Merci à vous. Prochain journal sur Radio J en direct dans une demi-heure.
Radio J.
Le grand journal, Steve Nadja.
Hier se tenaient donc les commémorations du Yom HaZikaron, le jour du souvenir pour les victimes de guerre israélienne et pour celles des opérations de haine contre l'État hébreu et les juifs, notamment le terrorisme. Des commémorations organisées partout en Israël, mais aussi en France, et notamment à la Grande Synagogue de Paris hier soir. Tanit Belaïch était sur place dans le 9e arrondissement de la capitale pour assister à cette cérémonie organisée en temps de guerre cette année.
Une cérémonie d'hommage aux soldats tombés le 7 octobre à la croisée de Yom HaZikaron et de Yom HaAtzmaout, la fête de l'indépendance d'Israël. C'est ce que proposait le consistoire derrière l'organisation de l'événement. Joël Mergui, président du consistoire de Paris.
Pour la première fois, ce Chag HaAtzmaout, ce Yom HaAtzmaout, je ne vais même pas dire Chag HaAtzmaout parce que la fête n'est pas là. Il est beaucoup plus axé sur le Yom HaZikaron. Je crois que la communauté juive a besoin de se retrouver. On l'a vu depuis le 7 octobre, plus que jamais. Se retrouver, bien sûr, pour pleurer, se retrouver pour prier, se retrouver pour penser aux otages et nous retrouver aussi pour chanter un peu différemment. Je l'ai dit à Hanouka, je l'ai dit à Purim, je l'ai dit malheureusement le jour de Simchat Torah, pas pour chanter dans la joie, mais pour chanter avec foi.
Mais avant, les chants de foi et d'espoir vont s'enchaîner des portraits vidéo produits par le réalisateur Steve Suissa aux côtés du KKL. Des portraits de sergents, de caporaux, de soldats morts suite à la sanglante attaque du Hamas il y a 221 jours maintenant. Parmi eux, Hadar Ben Simon, jeune caporal franco-israélienne de 20 ans déployé à Zikim, à la frontière nord de la bande de Gaza.
Hadar et son jumeau Aviv naissent le 13 mars 2003. Elle grandit à Neve Ziv, à l'est de Naharia, avec ses deux frères et sa sœur. Hadar est charismatique, elle aime le leadership. Le 4 août 2021, elle s'enrôle comme combattante au sein du commandement du front intérieur. À 6h30 du matin, le 7 octobre, les roquettes pleuvent. Elle se prépare au combat. À 6h45, les tirs d'armes se rapprochent. Des douzaines de terroristes arrivent. Ils atteignent l'entrée de la base à 7h. Hadar envoie un message à sa sœur. « Je n'ai plus qu'une balle dans mon chargeur. Shema Israël. »
Hadar Ben Simon, qui perdra la vie au bout de 40 minutes de lutte acharnée contre les terroristes, sauvant, aux côtés d'autres officiers, 120 nouvelles recrues de Tsahal. En ce jour du souvenir, la minute de silence a laissé place au kaddish qui a résonné dans la nef de la synagogue avant que le chauffard ne retentisse à son tour. Le chauffard qui s'inscrit dans la mémoire du peuple juif. L'occasion pour le nouvel ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, de prononcer un premier discours plein d'optimisme pour passer à Yom HaAtzmaout.
Sur les murs de la synagogue de la Victoire résonne le souvenir du mariage du colonel Dreyfus à quelques années, de l'acharnement antisémite dont il a été la cible. Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale sanglante qui a marqué les entrailles de ce lieu. Le souvenir de pleurs versés pour les vies arrachées qui défendaient notre peuple. C'est pour la paix que nous prions trois fois par jour. On sait Shalom Bimbromav, Ubarhamav, Yasse Shalom Alenu ve'al kol Israël. Benoma Amen. Ensemble, nous continuerons à construire, à créer et à croire à un meilleur futur. Pour ceux qui ne sont plus là pour le voir et pour les générations à venir. Que la mémoire des héros d'Israël soit bénie et que nos otages retrouvent leur liberté.
Et puis de la musique, beaucoup de musique pour fêter les 76 ans d'Israël, avec la voix d'Eden Golan, la représentante d'Israël à l'Eurovision, celle du cantor Yedi Diabloum, venu avec un orchestre chanter les plus grands classiques de la musique israélienne, ou encore celle du Chœur de l'Alliance, groupe scolaire fait de jeunes choristes de 10 ans à peine, avec une reprise d'Am Israël Rai de Yael Golan.
Radio J. Steve Nadjar. Radio J.
Radio J.
Le programme de la prochaine demi-heure sur Radio J, après ce reportage d'Etani Belaï, juste après la pause, je recevrai en ce jour de Yom HaAtzmaout le diplomate israélien Simon Seroussi. Le Grand Journal revient dans un instant. A tout de suite.
Radio J, le 6-9, Hélène Aferradian.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J. Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Menace sur les démocraties. C'est le thème de la conférence de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, organisée par le Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, mercredi 15 mai à 19h30. Menace sur les démocraties. Mercredi 15 mai à 19h30 au Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, 11 rue du 8 mai 1945, Saint-Lory-Gozlan.
Assis Créteil.
Assis Créteil.
01 43 77 01 70.
Radio J.
Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Radio J.
Merci d'être avec nous pour la troisième partie du Grand Journal, émission que vous pouvez écouter sur l'appli Radio Player France et suivre en vidéo sur YouTube, Facebook et X. Place maintenant à l'entretien de cette édition.
Radio J, l'invité du Grand Journal.
Radio J. Steve Nadjar.
Bonjour Simon Seroussi.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Simon Seroussi, qu'est-ce que ce Yom HaAtzmaout a-t-il à de singulier? Pourquoi est-il différent de tous ceux qui l'ont précédé ces dernières années à vos yeux?
Ce Yom HaAtzmaout est un des plus difficiles que notre pays ait connu. Vous savez, Yom HaAtzmaout, c'est un jour heureux où on célèbre le retour du peuple juif sur sa terre après 2000 ans d'exil. Et cette année, nous sommes heureux et nous célébrons ce retour, mais avec un goût particulièrement difficile, car je pense que l'État d'Israël n'a pas été dans une situation aussi difficile depuis sa création ou depuis la guerre de Yom Kippour peut-être.
Alors, c'est cette référence justement que j'évoquais tout à l'heure avec le président du CRIF, Jonathan Arfi. Est-ce que vous estimez que l'impact du 7 octobre sera le même, voire sera peut-être supérieur à celui de la guerre du Kippour d'octobre 73, qui avait bouleversé notamment la vie politique israélienne avec l'arrivée au pouvoir 4 ans plus tard du Likoud de Menachem Begin?
Tout à fait, et qui avait en partie contribué à l'accord de paix avec l'Égypte aussi. Je pense tout à fait que le 7 octobre sera au moins aussi important que la guerre de Yom Kippour pour l'État d'Israël. La différence, c'est que cette guerre dure. C'est que cette guerre est toujours d'actualité. Nous avons toujours des soldats qui se battent à Gaza. Nous avons plus de 200 000 Israéliens qui sont déplacés. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons plus de 130 otages encore aux mains de l'organisation terroriste qui vivent un cauchemar dans les tunnels de Gaza. Et je pense donc que cette guerre et cette réalité que nous vivons bouleverse profondément les Israéliens et bouleverse aussi l'environnement géopolitique dans lequel nous nous trouvons, avec une confrontation directe avec l'Iran, avec une tension très forte avec les États-Unis, notre principal allié, quelque chose que nous n'avions jamais eu jusqu'à présent, avec une image d'Israël qui est très touchée à travers le monde, avec des diasporas qui sont victimes d'antisémitisme. Et je pense que tous ces événements ensemble créent une réalité très très difficile pour l'État d'Israël. Nous sommes forts, nous sommes un peuple fort et nous relèverons la tête et nous créerons un meilleur futur pour nos enfants, mais la réalité aujourd'hui est très complexe et nous ne voyons pas pour le moment de sortie à cette crise.
Est-ce que le 7 octobre, Simon Serossi, mais aussi ce qui a suivi, à savoir la diabolisation d'Israël dans le monde et la haine antisémite sur la plupart des continents d'ailleurs, est-ce que tout cela, paradoxalement, renouvelle ou redonne une nouvelle vitalité au sens et à la pertinence du projet sioniste?
Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, chaque juif à travers le monde comprend que le seul endroit où il peut être en sécurité, et cela est assez ironique, c'est cette petite bande de terre à l'est de la Méditerranée qui s'appelle l'État d'Israël. Et que qu'il soit un juif aux États-Unis, en France, en Russie ou ailleurs, il sait que son statut peut être remis en question, que son voisin peut lui vouer une haine féroce, et que le seul endroit où il sera vraiment chez lui, c'est l'État d'Israël. Et je pense que cette crise renouvelle l'évidence de la nécessité totale d'un État pour le peuple juif, de l'État d'Israël, renouvelle cette solidarité de la diaspora absolument magnifique que nous avons vue dès le matin du 7 octobre dans toutes les synagogues à travers le monde où on a fait la prière pour les soldats et ensuite les diasporas qui se sont mobilisés pour envoyer des équipements, de l'argent, etc. en Israël et aujourd'hui même de façon politique.
Et qu'on l'a vu encore ces derniers jours avec le concours de l'Eurovision samedi soir ou les cérémonies organisées dans de très nombreuses synagogues dans le monde hier pour Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaout.
Exactement, exactement.
C'est une crise, une crise longue, une crise qui dure, une crise qui attriste évidemment et qui inquiète. Elle va marquer une génération entière.
Elle va marquer une génération entière. Elle a déjà marqué une génération entière. Vous savez, en Israël, on parle beaucoup de la génération du 7 octobre. On disait que les jeunes d'aujourd'hui n'étaient pas aussi forts. C'était la génération TikTok qui n'avait pas la capacité de se battre réellement, de faire face à une vraie crise.
Vous interrogez même, Simon Serossi, sur la possibilité que cette génération mène une campagne militaire de cette ampleur, ce qui a été contredit par les faits depuis le 7 octobre.
Exactement. Cette génération a prouvé que les jeunes Israéliens sont plus forts que jamais, sont plus déterminés que jamais, sont plus patriotes que jamais, et qu'ils savent faire face à des moments extrêmement durs. On a vu des jeunes de 19 ans, 20 ans qui avaient la moitié de leur unité tuée dans Golani, dans Nahal, et qui continuaient la tête haute à combattre à Gaza pour l'État d'Israël, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense aussi que cela va dépendre de la façon dont cette guerre se termine, et j'espère sincèrement que cela va être une guerre et non pas une période longue de plusieurs années comme l'a été par exemple le Sud-Liban où Israël est resté près de 20 ans. Et j'espère sincèrement qu'une stratégie est déjà en place ou va être mise en place afin de sortir de cette guerre et d'en tirer des bénéfices. Car de chaque crise et de chaque crise géopolitique, on peut créer une nouvelle réalité qui est plus favorable aux intérêts de l'État d'Israël. Et je pense que ceci est le résultat de cette guerre façonnera aussi la génération de soldats qui a combattu et ce qu'ils en tirent avec eux et la façon dont ils construiront le pays par la suite.
Et ils feront d'ailleurs peut-être entendre leur voix sur le plan politique dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup Simon Sarroussi d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Merci à vous, bon après-midi.
Merci Steve, et je rajouterai juste un mot.
Je vous en prie.
Je pense que malgré la tristesse, malgré les difficultés, il faut continuer à célébrer en ce jour le miracle sioniste, le miracle de l'État d'Israël, le miracle du retour de notre peuple sur notre terre. C'est très important. Et dans la tristesse, dans la douleur, il faut continuer à célébrer, car c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est en étant fort, en étant heureux, en étant fier, que nous continuons à construire notre pays et notre projet sioniste.
Merci beaucoup Simon Sarroussi d'avoir été avec nous. Bon après-midi.
Radio J. Steve Nadjar.
Un mot de football à présent dans le Grand Journal. Je recevais hier soir dans Classico le journaliste Assofoot Luca Duvernay-Coppola. On débattait notamment de la sortie contrastée de Kylian Mbappé dimanche soir au Parc des Princes. Joueur parisien qui a été élu hier soir meilleur joueur de la saison lors des trophées UNFP. Extrait.
Merci Steve. Écoute, non, en fait, je suis même très agacé des commentaires qui sont diffusés depuis cette soirée. J'en ai marre qu'on critique le club, j'en ai marre qu'on crache toujours sur le PSG, peu importe ce que le club fait. La soirée, elle s'est passée comme elle s'est passée. On a eu les avoirs de Kylian Mbappé. Il a eu son but, il a eu son moment face aux supporters, il a eu son tifo, il a eu son moment de partage avec eux. Voilà. Est-ce que le club aurait pu faire plus? Sans doute. Si tu regardes dans le passé les adieux qu'ont eu les autres joueurs, tu n'as aucun joueur qui a quitté le Paris Saint-Germain au sommet de son art et qui a eu le revoir qu'on aurait peut-être imaginé pour le Paris Saint-Germain. Tu ne quittes pas le Qatar, ça ne se fait pas. Et ils te le font payer, c'est tout, voilà. Point final.
Mais c'est bien ça le problème. Parce que le problème, c'est que le PSG individualise et personnifie son recrutement depuis l'arrivée du Qatar. Alors, c'est le Trocadéro pour Ibra, qui lui a été bien célébré. C'est la Tour Eiffel pour Neymar. C'est Keylor Navas qui est recruté en grande pompe. C'est Kylian Mbappé qui est recruté en grande pompe. C'est Marco Verratti, le petit hibou, qui est mis en avant. Mais il n'y a pas un joueur star, à part Ibra, qui est parti en bon terme, qui a été célébré correctement au PSG. La différence entre l'arrivée et le départ est quand même complètement choquante.
Additionnel, Benjamin.
Ouais, David nous parla des arrivées des joueurs et non pas des départs. Moi, encore une fois, hier, la soirée que j'ai vu de l'histoire, j'ai vu des anciens joueurs, j'ai vu les intendants, j'ai vu Michel Montana et j'ai vu effectivement Mbappé. Voilà, encore une fois, tirons un trait, passons à autre chose, arrêtons de critiquer ce club.
David ?
Ah non, mais moi, j'ai rien à rajouter. C'est-à-dire que au PSG, c'est complètement incohérent. Les joueurs sont recrutés, l'institution se met à plat ventre quand les joueurs sont recrutés et quand les joueurs partent, ils partent soit en paria, soit en catimini. C'est bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est bien que...
Luca Duvernay-Coppola.
Je suis d'accord avec David. Moi, je trouve ça déprimant, cette propension qu'a le Paris Saint-Germain à foirer les adieux ou les au revoir de ses plus grands joueurs. Enfin, le type est quand même le plus grand buteur de l'histoire du club. Il part en étant à moitié sifflé par une partie du public, avec un club, tu comprends pas très bien la guerre entre lui, Nasser, etc.
Qu'il n'a pas cité et remercié.
Qu'il n'a pas cité. C'était un peu la même chose avec Cavani, qui est parti en tant que meilleur buteur de l'histoire du club. Je trouve ça fou, ce club qui a quand même une histoire récente, qui est pas capable de surfer sur l'histoire qu'il est en train de se créer maintenant. Je trouve ça déprimant, en fait.
Classico à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur Deezer et Spotify. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube.
Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Question sur l'histoire juive à présent avec Raïm Lissemo. Bonjour Raïm.
Bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre. On s'intéresse aujourd'hui à la figure du prophète Elisha qui a succédé à son maître, on l'a vu la semaine dernière, à son maître Élie.
Exactement. Alors, on se souvient, Eliaou, accompagné par Elisha, quitte ce monde, quitte avec son corps, dans une flamme, nous dit le texte. En tout cas, Elisha est désigné comme son successeur officiel. Il va d'ailleurs diriger, ce qui semble un peu étonnant aujourd'hui, l'école de prophètes. Puisqu'en ce temps-là, il y a une école où les gens...
Il n'y avait pas qu'un seul prophète à l'époque.
Non, il y en avait un grand nombre. D'ailleurs, être prophète était une vocation en ce temps-là. Il y avait des jeunes hommes qui souhaitaient obtenir de Dieu la prophétie. Alors, c'est une expérience que nous ne partageons pas, mais ça doit être quelque chose de vraiment très bien, qui voulait devenir prophète. Or, pour cela, les textes étaient clairs, il faut vivre dans la solitude, s'écarter du monde, servir Dieu de tout son cœur et toujours être joyeux. La joie est indispensable. Mmh. Donc, ils avaient des endroits dans le désert, sans personne, où ils ne voyaient personne. Ils attendaient que Dieu veuille leur parler.
Alors ça ne marchait pas à tous les coups,
non,
même malgré la formation.
Absolument. Alors certains recevaient une prophétie, mais d'ailleurs nous savons parfaitement qu'il y a eu de nombreuses prophéties qui n'ont pas été mises par écrit, parce qu'elles étaient valables pour un moment donné, pour un point du territoire extrêmement réduit, qu'elles n'avaient pas de portée particulière pour l'avenir. Ce que nous avons dans le texte biblique, c'est seulement les grandes prophéties qu'il est nécessaire de conserver et de relire. Mais sinon, ça n'a pas été consigné.
Et ces petites prophéties, si vous me permettez l'expression, devaient être validées par le grand prophète, à savoir en l'occurrence ici Elisha.
Même pas. De toute façon, il y avait une interdiction d'annoncer une prophétie qui n'était pas réelle. Le prophète qui se risquait à ça, enfin le faux prophète qui se risquait à cela, était passible de la peine de mort. Et s'il n'était pas exécuté, faute de preuves ou parce qu'il n'y avait pas d'éléments, c'était Dieu qui se chargeait de son sort. Donc, il valait mieux ne pas essayer. Mais Elisha est donc le directeur de cette école. C'est lui qui forme les nouvelles générations de prophètes. Et il va d'ailleurs, pendant tout le temps de, entre guillemets, son règne, en tant que prophète, il va multiplier les miracles. Il ne vit pas hors des villes, comme le faisait Eliaou essentiellement. Il vit au contraire beaucoup à la cour. Il va voir le roi, il essaye de l'influencer.
Il est très critique du pouvoir et du roi Yoram.
Il essaye surtout de le conseiller et de le ramener à de meilleurs sentiments.
Ça marche ? Ça fonctionne ?
Peu. Alors, les temps sont très durs. N'oublions pas que nous avons toujours en vie Isabelle, la femme du précédent roi de Achav.
Qui avait importé de manière massive l'idolâtrie.
L'idolâtrie de Baal. Et donc, il doit lutter contre ses influences. Et vraiment, il multiplie les miracles. Et il est d'ailleurs connu. On nous raconte ainsi que la femme d'un prophète avait perdu son mari et s'était retrouvée sans moyen de subsistance. Il y a cette fameuse histoire, elle vient voir Elisha et lui dit « Mon mari était un de tes disciples et voilà, je suis sans rien, j'ai des enfants, nous n'avons pas de quoi manger. » Alors il lui demande « Et nos créanciers viennent et veulent tout saisir parce qu'ils veulent se rembourser. » Et Elisha lui dit « Qu'as-tu ? Que reste-t-il à la maison ?» Elle lui répond « Je n'ai plus qu'une petite fiole d'huile. » Et il lui répond « Prends tous les récipients vides que tu pourras trouver. » Ne lésine pas sur les récipients vides et verse. Et avec cette petite fiole d'huile, miraculeusement, elle réussit à remplir tous ces récipients, ce qui était une grande valeur, une grande richesse à l'époque. Et c'est ainsi qu'elle a pu vivre. Nous avons aussi la fameuse histoire, arrivée cette fois-ci de manière intéressante, avec un non-juif. Mmh. Et personne d'autre que le général syrien, le général de l'armée syrienne, qui est le grand ennemi d'Israël pendant de nombreuses périodes, qui s'appelle Naaman. Naaman est lépreux. Et il n'arrive pas à guérir. La lèpre, en ce temps-là, est une maladie absolument terrible. Et il apprend qu'il y a un prophète qui fait des miracles en Israël. Il se déplace, il va aller le voir. Elisha l'apprend et il ne le laisse pas entrer chez lui. Il le fait dire par son serviteur.
On ne profite pas de l'occasion pour le tuer ?
Même pas. Il dit à son serviteur, va le prévenir qu'il aille se tremper dans la rivière qui coule à côté d'ici. Naaman, un homme très orgueilleux, et est évidemment furieux, comme on ne le reçoit même pas. Il pensait que le prophète allait faire des miracles avec des prières, comme on le faisait dans son pays. Mais ses serviteurs lui disent, écoute, tu ne perds rien, vas-y, va te tremper. Il se trempe et est immédiatement guéri de la lèpre, ce qui fera monter le prestige d'Elisha de manière considérable. Mais il y aura aussi beaucoup de règnes, beaucoup de guerres pendant toute sa vie. Beaucoup de guerres avec le pays de Moab, qui est l'état voisin du royaume. Et cet état-là est puissant à l'époque. Et le roi brûle de pouvoir détruire le royaume d'Israël. Et donc, les guerres sont incessantes. Mais Elisha va beaucoup soutenir le royaume d'Israël. Il va ainsi prévenir, il le connaissait par inspiration divine, il va prévenir le roi des plans de Moab. Et c'est ainsi qu'il réussit à déjouer à chaque fois. Et puis par son attitude et sa bonté envers tous, y compris les prisonniers, ennemis, eh bien il réussit à s'attirer les faveurs de tous et parvient à la fin à réaliser une certaine pacification. Une dernière fois, le roi de Moab lève une armée pour combattre Israël, et ses propres oracles dans son pays lui ont annoncé qu'il gagnerait à condition qu'il sacrifie son fils à leur dieu. En ce temps-là, on n'hésite pas.
C'est propre notamment au culte de Baal, je crois.
Absolument. Il sacrifie son fils. Mais Elisha est là et il prévient le roi. Et finalement, tout cela tourne au désavantage de Moab. Et l'armée de Moab est mise en déroute. Le roi, alors, n'a plus qu'une seule solution. Il va sur la tombe de son fils et se tranche lui-même la gorge. Cela mettra fin aux guerres avec Moab et la paix sera ainsi réalisée. Mais tout cela n'est pas encore terminé puisque après Moab, bien, il y a la Syrie, le roi de Syrie qui lui aussi en veut au royaume d'Israël. Et les guerres vont recommencer. Et puis le temps avance. Le temps avance, c'est Joram qui est au pouvoir dans le royaume d'Israël et ça ne va pas beaucoup mieux spirituellement et cela va avoir des conséquences.
Affaire à suivre. Merci Rémi, c'est bon après-midi.
Vincent.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.